suite, nous retrouvons notre émission Sportez-vous bien. Eh bien, c'est ce qu'on vous souhaite, bien vous porter. Ça manque de filles autour de la table, j'en suis Reda, il va falloir faire un effort. En tout cas, je vous laisse en très bonne compagnie de Jean et ses chroniqueurs.
Sportez-vous bien.
Sportez-vous bien.
Sportez-vous bien. L'actualité sportive commentée par Jean Sureda.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien, l'émission sportive de Radio Présence. Comme tous les lundis, les chroniqueurs et moi-même vous donnerons les dernières infos sportives de la région, tout en balayant l'actualité de la semaine avec des invités qui font le sport de haut niveau. Au programme aujourd'hui, les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs. Timothée Rouvière vous donnera les résultats du week-end, Lucas Serdic, l'agenda de la semaine, sans oublier les débats avec ce soir la Coupe Davis et la Ligue des Champions. Enfin, nous recevrons David, recruteur de football d'un club de Ligue 1. Avec nous aujourd'hui, Timothée Rouvière. Bonsoir Timothée.
Bonsoir Jean, bonsoir à tous.
Lucas Serdic, bonsoir Lucas.
Bonsoir Jean.
Marek Keta, bonsoir Marek.
Bonsoir à tous.
Et Damien Mazillier, bonsoir Damien.
Bonsoir Jean.
Messieurs, bonsoir.
Bonsoir.
Content de vous retrouver en ce début de semaine. Avec le retour de la Ligue des Champions dès demain, on va en parler tout à l'heure. Ça fait plaisir de retrouver les matchs de Coupe d'Europe.
Ça fait plaisir. Tout à fait. Mais pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, ou ce qu'on a entendu juste avant l'émission, une petite voix féminine au niveau des jingles, c'est ça qui manque vraiment, non ?
Est-ce que vous voulez une...
Oui.
Une certaine Valérie.
Ben une certaine Valérie, pourquoi pas, pour rappeler de bons souvenirs.
On fera.
Elle nous manque beaucoup, Valérie.
On essaiera, on verra avec elle si elle peut faire les chroniques. Messieurs, je vois que vous êtes de bonne humeur. J'espère que votre bonne humeur va se poursuivre avec les coups de cœur et les coups de gueule.
Sportez-vous bien, les coups de cœur et les coups de gueule.
Et chaque semaine, vous nous parlerez d'un événement qui vous fait plaisir ou non. Et cette semaine, en ce début de semaine, en ce lundi soir, vous êtes plutôt heureux. Comment ne pas l'être finalement avec le record du monde du français, Kevin Mayer. C'est votre coup de cœur ce soir, Lucas Serdic.
Oui, exactement. Kevin Mayer, qui est vraiment, qui s'impose aujourd'hui comme l'athlète référence de l'athlétisme français. Une magnifique tête de gondole. Il a 26 ans, il est beau, il est grand, il est fort et il a explosé le record du monde. Et moi, je m'attendais personnellement peut-être pas à ce que ça arrive aussi vite, aussi fort. Il a quand même battu le record d'Ashton Eaton de 81 points.
C'est énorme.
Il est le premier athlète à dépasser les 9100 points quand il n'y a pas si longtemps que ça. Déjà, un athlète qui dépassait les 9000, on était vraiment sur quelque chose de très lointain. C'était une magnifique épreuve. En plus, en France,
c'était à Talence,
dans un Décastar qu'on apprécie, en tout cas moi que j'apprécie personnellement, une épreuve de fin de saison comme ça. C'était bien, c'était un très beau moment ce week-end.
Surtout qu'il a échoué cet été au championnat d'Europe dès la deuxième épreuve éliminée après avoir échoué sur trois essais au saut. C'est mentalement, c'est très fort ce qu'il a réussi, Kevin Mayer.
Très fort. Ça prouve la dimension qu'il a prise après sa médaille d'argent au JO, après sa médaille d'or aux Mondiaux, une fois qu'Ashton Eaton avait pris sa retraite. Et c'est d'autant plus fort qu'il bat 4 de ses 10 records, enfin sur 10 épreuves, il bat 4 fois son record. Et c'est encore plus impressionnant quand on sait qu'il a de la marge, notamment avec ce qu'il a fait au 1500 mètres où c'était un peu pénible. Peut-être qu'il était fatigué après tout cet influx nerveux. Il savait qu'il avait de la marge, il a fait 4,35 alors qu'il est capable de faire quasiment 10 secondes de moins. Donc il a encore une marge pour battre son propre record et je crois qu'il a envie de le battre à nouveau.
Marek Keta ?
Ouais, ce qui est très impressionnant, c'est que, mis à part peut-être le 1500 mètres où il y avait un peu plus de difficultés, mais il est très bon dans tous les sports. Et en fait, on le voit, il n'est pas premier, certes, dans chaque sport, mais il est toujours placé.
C'est ce qui fait la différence peut-être au final, surtout.
Ah ouais, absolument.
Tout à fait, il est complet. C'est le principe du décathlon et je crois que c'est celui qui le représente le mieux. Parce que même Ashton Eaton, avant, lui, il avait quand même beaucoup plus de facilité.
L'ancien recordman,
Ashton Eaton, l'ancien grand adversaire de Kevin Mayer, qui l'a privé de quelques victoires. Il avait de grandes facilités à la course, notamment, mais il avait des faiblesses ailleurs. Kevin Mayer, il en a quasiment plus, quoi, des faiblesses. C'est fini, ça.
Timothée Rouvière.
Et pour rebondir sur ce que disait Lucas, c'est que voilà, c'est un athlète extraordinaire et aussi, il a un capital sympathique et extraordinaire aussi. Il est beau gosse, il parle avec tout le monde et surtout il est humble, une tête bien faite et un corps bien fait comme on dit, mais il est super humble, donc ça fait plaisir à voir.
Kevin Mayer a battu le record du monde du décathlon. Il y a un autre record du monde qui est tombé ce week-end, c'est en athlétisme toujours, et Damien Mazilier, c'est votre coup de cœur, c'est sur le record du marathon, c'est bien ça?
Exactement, c'est un Kenyan de 34 ans qui s'appelle Eliud Kipchoge. Il a mis une claque au record du monde qui date de 4 ans. Il a mis donc 2 heures, 1 minute et 39 secondes pour faire 42 km 195.
C'est pas mal.
C'est une moyenne de 20 km heure.
C'est vraiment pas mal.
Plus de 20 km heure, c'est presque 21 km heure. C'est vraiment énorme. Donc, surtout qu'il n'avait plus de lièvre à partir du 25e kilomètre. Ça, c'est à souligner.
Le lièvre, c'est une bonne chose. Pour expliquer aux auditeurs, le lièvre, c'est une personne qui court avec lui, qui l'aide.
Ou même plusieurs.
Il était tout seul, et la difficulté est là, c'est de courir tout seul, sans aide,
sans avoir un tempo imprimé. Voilà. Oui, effectivement.
Exactement.
Il a mis plus d'une minute au record, l'ancien record. Il y a des soupçons?
Non, je crois pas qu'il y ait de soupçons parce que voilà, il y a pas de à ce niveau-là une minute. Bon, ça peut nous paraître impressionnant peut-être, mais
c'était prévu. Il l'avait annoncé avant.
Oui, voilà, il vient pas de nulle part, quoi. C'est la tête, clairement.
Timothée Rouvière.
Ce qui est impressionnant avec Eliud Kipchoge, c'est qu'il a 33 ans, et ça fait 10 ans qu'il est au plus haut niveau. Il est double champion olympique, et c'est un athlète qui dure. Donc là où on voit que les Kenyans, la plupart du temps, ils sont 2 à 3 ans au plus haut niveau, et qu'ensuite, ils prennent leur retraite quand ils ont amassé assez de gains, parce qu'on sait que c'est dans un pays pauvre. Mais là, voilà, ça fait 10 ans qu'il dure au plus haut niveau, et il peut aller retaper le record du monde, je pense.
Pour beaucoup, c'est le plus grand marathonien de tous les temps. Il a, sur 11 marathons, par exemple, il a 10 victoires.
C'est gigantesque.
Et il n'a pas trop de concurrence pour le moment. Est-ce que c'est lui qui va arriver à faire descendre ce record en sous les 2 heures. C'est la question, mais il devient quand même, à 34 ans...
C'est dans ses cordes, passer sous les 2 heures, ou c'est compliqué?
C'est compliqué,
c'est
actuellement,
compliqué,
quand même.
Les 2 heures.
Là, il lui reste quoi? Une minute 30?
Une 40.
C'est énorme. À 33 ans,
on verra. Quand on voit qu'il a mis quand même une minute au précédent record.
Oui, la minute peut être là. Le grognon de la semaine, c'est Marek Keita, j'ai envie de dire. C'est un coup de gueule sur le volet hier soir.
Ouais, cette semaine, je parle de ballon rond, mais pas de foot. Donc, en ce moment, se déroulent les championnats du monde de volet. Et nos Bleus, ils se sont mis dans de sales draps après cette défaite face aux Pays-Bas. Alors, en fait, c'est dommage, je le mets en coup de gueule, parce que malgré une défaite la semaine dernière contre le Brésil, ils avaient quand même créé la sensation, puisqu'ils les ont poussés quand même jusqu'au tie-break. Ils ont fini par perdre dans le Money Time 3-2.
Alors qu'ils étaient menés 2-7-0.
Ils étaient menés 2-7-0, ils sont montés à 2-2 et ils ont perdu dans le Money Time. Ils ont confirmé cette bonne dynamique en écrasant l'Égypte 3-0 vendredi. Et seulement hier, la France a concédé une défaite face aux Pays-Bas.
La deuxième, il y a eu celle du Brésil
Pays-Bas tombeur du Brésil 3-1 la veille, donc samedi. Et un peu en fait à la surprise générale, c'est les Pays-Bas, ils n'étaient pas attendus sur le podium, ils ne sont pas du tout attendus sur le podium.
Et surtout que les Français menaient 2-7-0, c'est ça qui est un peu plus.
Les Français menaient 2-7-0. Donc encore une fois, c'est dommage.
C'est vraiment dommage. Ouais.
Et puis,
ils se mettent dans le sale drap.
Et puis à noter, côté Pays-Bas, la montée en puissance d'un ancien joueur qui a joué en France,
Toulouse.
Nimir Abdelaziz, qui a fait vibrer clairement le sol côté français. Quoi. Alors maintenant, on peut toujours se qualifier, mais il faut absolument battre le Canada. Bon,
c'est ça.
Ils seront au deuxième tour, mais effectivement, vu que les deux défaites, ils vont les traîner encore. Pas sûr qu'ils aillent vraiment plus loin par la suite. C'est un peu comme le handball, pour ceux qui connaissent un petit peu.
C'est le même système.
C'est le même système. Donc c'est effectivement, ce serait vraiment dommage, parce que sur le papier, il y a quand même un gros potentiel pour cette équipe de France.
Et enfin, on termine, messieurs, avec le troisième coup de cœur de la soirée. C'est avec vous, Timothée Rouvière.
Alors moi, je vais vous parler d'une pistarde allemande qui s'appelle Christina Vogel, qui a 27 ans. Donc c'est une grande championne, mais elle a eu un grave accident avec une autre cycliste. Elle est devenue paraplégique, et mon coup de cœur, c'est plutôt sur la cagnotte en ligne qui a récupéré près de 150 000 euros. Donc il y a pas mal de cyclistes qui ont appelé tout simplement à verser de l'argent, et c'est tout simplement la solidarité envers cette championne qui est double championne olympique, qui a 11 titres mondiaux, qui avait déjà été victime d'un accident en 2009 et qui avait passé plusieurs jours dans le coma. Mais voilà, c'est tout simplement un petit clin d'œil à cette cagnotte en ligne.
Ouais, 150 50 000 euros en quelques jours, ça fait beaucoup.
Ah oui, c'est plutôt pas mal. Et voilà, c'est assez tragique quand même, que, parce qu'on sait que le cyclisme sur piste est un sport dangereux. Donc voilà, c'est un coup de cœur. Mais...
Je suis désolé, je me permets de rebondir sur la question du cyclisme, parce qu'il y a eu un autre événement quand même marquant ce week-end. C'est la victoire de Simon Yates à la Volta. Et notamment un triplé britannique
sur les grands tours.
Chose qui n'a jamais été faite avec trois coureurs différents. Il y a déjà eu la France en 64 avec Anquetil et il y a déjà eu qui avait fait un doublé. Il y a déjà eu aussi l'Espagne en 2008 avec Contador qui avait fait un doublé. Mais on n'avait jamais eu trois coureurs différents d'une même nation qui remportent trois grands tours. Et en plus, quand ça vient d'un pays comme la Grande-Bretagne, où a priori, à part s'ils sont bien cachés, il n'y a pas beaucoup de hauts sommets quand même. Ouais. Hein, on ne va pas tomber dans la polémique, mais on peut s'interroger, n'est-ce pas?
Oui, surtout dans le cyclisme.
Voilà, surtout dans le cyclisme. Mais il n'empêche qu'il a confirmé les bonnes dispositions qu'il avait montrées au Giro. Et là, on a Simon Yates qui remporte la Vuelta. On verra.
Merci messieurs, on se retrouve dans moins de 4 minutes pour les conseils santé de Didier Rebillot. À tout de suite.
Des visages à nos portes, planqués derrière un jetard. C'est dans l'absence d'un sourire qui ne coûterait pas grand chose. C'est comme un clou qu'on enfonce, une violence à petite douche. Ainsi par terre, voir le monde qui défile et l'avoir pour domicile. Merci pour un euro ou même moi. Être seul à tendre la main. Être le seul à tendre la main. C'est dans les gestes qu'on n'attend plus ou qu'on se refuse de faire. C'est dans nos quotidiens déçus qui nous rendent du riz amer. C'est rien qui dise tout, mais qu'on préfère encore taire. Ainsi par terre, voir le monde qui défile et l'avoir pour domicile. Qu'un bout de trottoir assis par terre, être obligé de dire merci pour un euro ou même moi. Et être seul. Voir les visages à nos portes, flanqués derrière un Judas. Ainsi par terre, voir le monde qui défile et n'avoir pour domicile qu'un bout de trottoir assis par terre. Être obligé de dire merci.
C'était Louis-Joseph sur Radio Présence.
Sportez-vous bien, Jean Sureda.
Et depuis cette semaine, Sportez-vous bien et Radio Présence accueille un nouveau chroniqueur, Didier Rubio, diététicien et nutritionniste du sport, spécialisé en éducation thérapeutique, qui travaille à mi-temps à l'hôpital des enfants. Il est aussi en activité libérale dans le sport et les santé, les formations en qualité de vie au travail et du sport, en plus d'être conférencier et micronutritionniste. Toutes ces coordonnées à retrouver sur Radio Présence. Bonjour Didier Rubio.
Bonjour.
C'est bien ça ? Tout est dit ?
Oui, c'est un peu long, mais bon, c'est effectivement ça.
Tout est là. Pour cette première chronique, on va parler d'hydratation et sport. Finalement, qu'est-ce que c'est ?
Alors, on commence par une chronique sur l'hydratation parce que effectivement, c'est quelque chose qui est le plus important dans le sport et l'activité physique et à tout âge. Il faut savoir que l'on est composé quand même de environ 65 à 70% d'eau, c'est-à-dire que le corps quasiment n'est que de l'eau. Et donc, au niveau cellulaire, c'est vraiment capital d'avoir une très bonne hydratation et que l'on va développer.
Est-ce vrai qu'il faut plus s'hydrater en été qu'en hiver ?
Oui, parce que en fait, l'hydratation est surtout, c'est super important. La nuance, c'est l'évaporation de la sudation, c'est-à-dire que lorsqu'on transpire et que cette transpiration s'évapore, c'est une manière de refroidir l'organisme. C'est en fait comme quand dans une voiture, elle chauffe, on ouvre le capot. De fait, effectivement, quand il fait plus chaud, on aura tendance à plus transpirer. Mais il faut vraiment être attentif l'hiver, parce que l'hiver, on peut être couvert même de trop. Et du coup, on évapore mal cette transpiration. Et donc, il faut veiller à bien s'hydrater même l'hiver. Mais évidemment, que si l'été, par exemple, par une canicule, on peut perdre 3, 4 ou 5 litres d'eau. L'hiver, souvent, ça peut être moins que ça. Mais à retenir aussi que l'évaporation, c'est-à-dire lorsque l'on respire, en fait, ça occasionne une déperdition d'eau. Donc, tout est à prendre en compte. Et si vous voulez, un bon témoin, et c'est simple, de voir si un organisme est assez bien hydraté, c'est de vérifier finalement la couleur de ses urines.
Et justement, quelles sont les conséquences s'il y a une mauvaise hydratation ?
Ben alors, elles sont vraiment multiples, mais la première que tout le monde connaît comme conséquence, c'est souvent les crampes, c'est-à-dire que le muscle est mal hydraté, donc il va se contracter un petit peu alors que l'on veut pas, et donc ça limite l'exercice, c'est certain. Et puis tous les métabolismes en fait fonctionnant avec de l'eau, eh bien on va avoir une mauvaise hydratation cellulaire, donc on est plus à risque de se blesser finalement, jusqu'à la déchirure musculaire, pourquoi pas.
Didier Rubio, merci. On se retrouve la semaine prochaine sur Radio Présence.
Merci, à bientôt.
Et on se retrouve tout de suite pour les résultats sportifs du week-end.
Sportez-vous bien. Le débat.
Alors non, ce n'est pas le débat, c'est bien le résultat sportif. Un week-end chargé et mitigé pour les clubs de Toulouse, avec une victoire pour le rugby, une défaite pour le handball et un match nul pour le football. On fait le point avec vous, Timothée Rouvière. Le début de saison parfait continue pour le Stade Toulouse.
Oui, les stadistes se sont imposés à domicile face au Racing Métro 92, 30 à 17. Un match maîtrisé par les Toulousains qui ont marqué par trois fois, dont un doublé pour l'ailier Sofiane Guitoun. Les hommes du Gomola sont quatrième au classement avant leur match face à Montpellier. Ça rigole aussi pour le champion de France Castres, troisième du classement après sa victoire contre Grenoble 29 à 13. En revanche, c'est plus compliqué pour Pau, dixième et défait par Clermont 27-23. En tête du championnat, c'est toujours Clermont qui domine devant le Stade français.
Beau résultat pour le TFC face au vice-champion de France.
Un match intéressant face à Monaco, un but partout. Les Toulousains restent toujours dans le peloton de tête à la quatrième place. Un classement dominé bien évidemment par le Paris Saint-Germain, auteur d'une démonstration 4-0 face à Saint-Etienne. Marseille est deuxième après sa victoire 4-0 aussi contre Guingamp, devant Lille et donc Toulouse. On le rappelle, les Parisiens affronteront mardi Liverpool dans le cadre de la première journée de la Ligue des Champions. Ligue des Champions toujours, et la préparation n'est pas idéale pour Lyon et Monaco. Les Lyonnais n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul 2-2 face à Caen, pourtant réduit à 9.
Et la Ligue des Champions, on va en parler dans moins de 5 minutes. En attendant, le handball, début de saison compliqué pour le Phoenix.
Oui, les Toulousains se sont inclinés face à Montpellier, champion d'Europe, 34-29. Une défaite logique, mais l'entraîneur Philippe Gardant était fier de ses joueurs.
On joue bien. Après, on se loupe un plus 4 là, sur une transmission un petit peu rapide sur notre pivot. Je veux dire, c'est des bêtises qui nous coûtent cher, mais C'est des trucs qu'on peut peut-être travailler. Donc, je veux dire, si on arrive, moi j'ai presque tendance à dire que notre saison elle est lancée pratiquement. Et alors, le paradoxe, c'est lancé sur une défaite, mais c'est une belle défaite. Et sincèrement, vous n'allez pas entendre le dire souvent ça. Donc, voilà, j'essaie vraiment de positiver. Et encore une fois, j'ai aimé le comportement de mes gars, que ce soit au niveau de l'état d'esprit, au niveau de l'engagement et au niveau de l'approche tactique.
Dans les autres rencontres, Nantes a battu Dunkerque 30-29, tandis que Paris a facilement disposé d'Istres 31-24. Au classement, Paris est toujours en tête devant Nantes et Montpellier. Le Phénix est lui 12e. C'était aussi le début de la Ligue des Champions et 1 sur 3 pour nos clubs français, avec la seule victoire de Paris 35-29 face au HC Motor Zaparotier.
Compliqué à dire.
Bien joué. Compliqué à dire. Difficile, oui. Tenant du titre, Montpellier s'est lui incliné 27-24 face au Vajdar Skopje.
Parfait.
Tandis que Nantes a lui perdu contre Flensburg.
C'est le début des championnats du monde, on en a parlé dans les coups de cœur et les coups de gueule, et un bon début pour la team Yabou avant de piétiner.
Oui, les coéquipiers d'Erwin Engapet se sont imposés contre la Chine et l'Égypte 3-0, avant de chuter contre le Brésil, champion olympique en titre. Hier, les Bleus se sont inclinés face aux Pays-Bas 3-2, après avoir mené pourtant 2-7-0.
Et pareil, on va en parler en fin d'émission pour le débat, le deuxième débat, le tennis, et nouvelle finale de Coupe Davis pour l'équipe de France.
Les Bleus se sont facilement imposés face à une équipe d'Espagne diminuée par le forfait de Rafael Nadal. Après les victoires de Benoît Paire et Lucas Pouille vendredi, c'est la paire Mahut-Benneteau qui s'est imposée, offrant ainsi à la France une deuxième finale de Coupe Davis en 2 ans. Les hommes de Yannick Noah affronteront la Croatie vraisemblablement fin novembre à Lille. Belle victoire aussi pour la Française Pauline Parmentier qui s'offre son deuxième titre de la saison en battant en finale du tournoi de Québec l'Américaine Jessica Pegula.
Et en Formule 1, nouvelle victoire pour l'Anglais Lewis Hamilton.
Oui, toujours, hein, le quadruple champion du monde s'est imposé au Grand Prix de Singapour devant le Néerlandais Max Verstappen et le champion du monde allemand Sébastien Vettel. Il conserve une confortable avance au classement du championnat du monde. Côté français, ce fut compliqué avec un abandon dès le premier tour pour Esteban Ocon et une 13e et 14e place pour Romain Grosjean et Pierre Gasly. Ce n'est pas tous les jours que nous avons un recordman du monde français, mais on le rappelle, le champion français de décathlon, Kevin Mayer, qui bat la précédente marque de près de 81 points. On a parlé avec Lucas tout à l'heure. Une marque détenue par l'américain Ashton Eaton et que le français a détrôné lors du Décastar de Talence. Il devient ainsi le premier homme à passer au-delà des 9100 points.
Et c'est le 4e français à détenir un record du monde en athlétisme, que ce soit en salle ou en plein air, après Tango, Lavillény et Diniz. On va tout de suite passer au premier débat de la soirée avec la Ligue des Champions.
Sportez-vous bien. Le débat.
Demain débute la 64e Ligue des Champions de l'histoire. Si le Real Madrid triple champion en titre est l'équipe à battre, les clubs français ne font pas vraiment peur en moment de débuter une campagne européenne. Avec toujours une seule victoire en Ligue des Champions, la France attend qu'un club remporte la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. Messieurs, ma question, elle est très simple et on ne répond que par oui ou par non. Est-ce la bonne année pour les clubs français, Damien?
Oui, mais
Lucas?
Possible.
Marek?
Non.
Et Timothée?
Non.
Pourquoi non? Le Paris Saint-Germain peut être l'un des prétendants sérieux de ce titre. Pourquoi non?
C'est sûr, le PSG est prétendant au titre, mais comme chaque année, le PSG a un effectif, pléthorique, avec des stars comme Neymar, Mbappé, on a Buffon qui est revenu. Mais au niveau du recrutement, ça me paraît un petit peu léger. Et face à d'autres cylindres européennes comme Barcelone, Liverpool ou encore Manchester City, c'est un peu léger quand même.
Ouais, mais ce qui... Pardon, Marek, vas-y.
Non, mais vous parlez de Manchester City, je voulais en parler justement, puisqu'on... On en discutait hors antenne. Pour moi, Paris, ça me fait penser à Manchester City, dans le sens où City, le Champion Project, ils l'ont depuis 2009, il me semble. Ils ont été rachetés, ils ont beaucoup d'argent.
Et ils font qu'une seule demi-finale.
Alors que regardez les joueurs qu'ils ont. Agüero, peut-être un des meilleurs avançants du monde. De Bruyne, que j'aime beaucoup, meilleur milieu offensif.
Et ils ont toujours l'entraîneur qui a l'expérience.
Guardiola, qui a l'expérience d'une Ligue des Champions remportée en peut-être 2011, je ne sais plus exactement.
Oui.
Et Paris, pour moi, qui n'y arrivera pas.
Il en a gagné plus.
Mais Manchester City n'est pas si loin non plus. Hein, et Paris n'est pas si loin non plus. Et ce n'est pas une question de recrutement. La preuve avec le Real qui a gagné les trois dernières Coupes d'Europe sans vraiment se renforcer. C'est d'ailleurs peut-être ce qui a fait qu'ils ont été, aussi constants. Là, il y a eu quelques changements au club. Donc moi, je ne les mettrais pas tête de série numéro 1 cette fois-ci. Justement, Manchester City, après la grosse saison qu'ils ont fait l'année dernière, et j'ai l'impression que Guardiola a vraiment... commence à avoir une assise, commence à avoir son équipe. Il n'a pas eu besoin de faire beaucoup de gros renforts cet été. Manchester City fait partie des prétendants et je suis désolé, mais le PSG en fait partie aussi parce qu'ils ont été intelligents dans le recrutement, même s'ils n'ont pas fait de folles dépenses. Et Thomas Tuchel me semble être quelqu'un d'assez brillant.
Damien, pour moi, Paris pourrait la gagner cette année ou une autre année.
Mais ils ont les moyens.
Ils ont les moyens, mais après, si c'est pas le cas, c'est pas une catastrophe non plus. Il faut laisser le Paris se construire, se faire un groupe et surtout avoir un entraîneur stable. C'est pas après une année qu'il faut s'en débarrasser, même s'ils font une mauvaise performance en Ligue des Champions. Après, se donner un objectif de quart de finale, demi-finale pour le Paris Saint-Germain, ça peut être pas mal.
Ouais, moi je suis d'accord avec Damien dans le sens où c'est une question de patience.
Chelsea avait mis 9 ans avant de la gagner en 2012.
Voilà, Chelsea, ouais. C'était le premier exemple d'un club effectivement racheté par un milliardaire qui injecte beaucoup de sous. Et effectivement, c'est peut-être presque quand on s'y attendait le moins qu'ils ont été champions d'Europe. Mais là, pour le coup, après, qu'il faille construire sur la durée, oui, mais avec quelqu'un de bon. Unai Emery n'avait la confiance de pas grand monde dans le club et parmi les joueurs.
Contrairement à
Tourelle, il semblerait cette année. Après, on verra après s'il y a des contre-performances en Ligue des Champions, on verra. Il va peut-être la perdre cette confiance. Mais voilà, si un entraîneur, de toute façon, n'a pas la confiance de son groupe, l'écarter, ça reste une solution.
Quoi. Oui, et puis regardons comment Chelsea a gagné la Champions League. C'était quand même en faisant le bus devant ses buts. Paris, ils n'ont pas du tout le même.
Avec un Di Matteo qui est arrivé en cours de saison.
Comme Zidane avec le Real il y a trois ans.
Donc voilà, la stabilité ne fait pas tout non plus.
Pour en revenir au club français, on va commencer par le Paris Saint-Germain avant de parler de Lyon et Monaco. Le Paris Saint-Germain est dans un groupe plus que relevé. C'est là la différence par rapport aux autres années, où les autres années ils étaient soit dans le groupe du Real Madrid, du Barça, du Bayern Munich comme l'année dernière. Là il y a trois gros, il y a Naples, il y a Liverpool et le PSG. Est-ce que finalement c'est pas mieux de débuter demain soir à Liverpool, à Anfield, chez le finaliste en titre de la Ligue des Champions, Marek?
Oui, alors encore une fois, je pense que le fait que ce soit les phases de poule, Paris a quand même, depuis l'époque Zlatan Ibrahimovic, ils ont quand même toujours su gérer leur match de poule. Je pense pas
qu'il y avait personne dans le groupe. À part une tête de...
Mais après, on n'est pas tous d'accord sur le fait que Naples soit un gros. Moi, je considère que Naples a perdu beaucoup cet été et qu'ils sont en fin de cycle.
Ils ont Ancelotti qui est arrivé quand même, hein, c'est pas rien. Hein.
Oui, ils ont Ancelotti, mais ils ont perdu aussi leur entraîneur, ils ont perdu aussi Jorginho. Il est parti avec quelques joueurs, il n'a pas laissé le club non plus. Voilà. Et Marek Hamšík commence à. Ça fait longtemps qu'il reste là, longtemps qu'il voit personne de gros arriver. Il reste Caglione qui, moi aussi, pour moi, il commence un petit peu à s'essouffler. Moi, je pense que Naples ne sera pas un si gros adversaire que ça, en tout cas loin du calibre du PSG, d'après moi.
On reprochait au PSG de ne pas entrer directement dans la Ligue des Champions avec le niveau de la Ligue 1, entre guillemets, par rapport à des clubs comme le Barça qui joue le Real Madrid et inversement, en Angleterre, il y a des chocs quasiment tous les week-ends. Finalement, Timothée Rouvière, est-ce que c'est pas mieux de débuter à Liverpool?
Ah si, ça c'est la meilleure chose. Bon, déjà, Belgrade, Liverpool et Naples, c'est trois grosses ambiances, donc le Paris Saint-Germain va être directement dans le bain et on est face à des équipes qui ont l'habitude de jouer des matchs européens avec une certaine intensité physique, notamment au milieu, et voilà, le PSG va vraiment savoir à quoi s'attendre, et au lieu de commencer sa saison en février, mars avec des gros en huitième ou en quart de finale, ils vont commencer dès septembre et c'est pas plus mal pour eux.
C'est sûr qu'ils vont être confrontés à des équipes qui vont pas les laisser jouer comme ils veulent et effectivement ça va peut-être leur servir. Moi, ce qui me donne assez confiance en cette équipe cette saison, c'est qu'ils démarrent pas fort pour moi la saison en termes de contenu dans les matchs. Ils sont pas au top, mais ils sont quand même à 5 victoires en championnat. Personne l'avait fait jusque là au PSG en tant qu'entraîneur, je parle. Hein. Et c'est plutôt bon signe parce que j'espère qu'ils vont avoir cette forme ascendante qui va faire que au printemps ils seront bons, alors que les autres saisons ils avaient démarré sur les chapeaux de roue, même en termes de qualité de jeu, pour un printemps qui se terminait bien trop tôt.
Si le Paris Saint-Germain est le club français favori de cette Ligue des Champions, derrière il y a deux clubs qui sont un peu en retrait dans des groupes très difficiles, l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco. On parlait tout à l'heure, Lucas, vous parliez tout à l'heure que Naples a perdu beaucoup de joueurs, c'est également le cas de l'AS Monaco. Monaco est dans le groupe A avec Bruges, le Borussia Dortmund et l'Atlético de Madrid. Il débute dès demain face à l'Atlético Madrid à domicile.
Qu'est-ce qu'on peut
attendre de l'AS Monaco cette année, avec un effectif quand même relativement faible pour la Ligue des Champions?
Je vais être bref, survivre, tout simplement.
Au moins viser la Ligue Europa.
La Ligue Europa,
La Ligue Europa, pour moi, c'est jouable. C'est, ça peut être une bonne...
Ils sont au-dessus de Bruges, même qui se relancent.
Ça peut leur permettre de faire une deuxième partie de saison, effectivement, ouais, dans une Coupe d'Europe où ils auraient peut-être un peu plus d'habitude et un peu plus le niveau. Parce que là, ils vont mettre du temps à trouver leur marque. C'est ça le souci, en fait. Ah ouais, là, c'est ce qu'on voit.
On comprend pas trop comment ils fonctionnent, Monaco, le recrutement. On sait pas trop comment ça se passe. Là, il y a la moitié de l'équipe qui est partie.
C'est assez lisible, quand même. Ils pouvaient pas garder Lemar un an de plus. Ils pouvaient pas garder Fabinho un an de plus. Ils repartent sur quelque chose d'autre. Ils intègrent des joueurs qu'ils ont acheté il y a un an, comme Tillmans par exemple.
Mais ça manque d'expérience, clairement, Monaco. Ils achètent des joueurs de 17, 18 ans et voilà, pour tenir des matchs de Ligue.
Non, mais la Ligue Europa, c'est une bonne option pour eux.
Ouais, il y a deux ans, quand ils sont champions, ils n'ont pas beaucoup plus d'expérience.
C'est ce que j'allais dire. Quand ils font demi-finale, il y a deux ans, ils sont champions de France, comme vient de le dire Lucas. Ils font demi-finale de la Ligue des Champions, justement en éliminant le Borussia Dortmund et Manchester City. On va en parler tout de suite de Manchester City avec l'Olympique Lyonnais. Pourtant, ils avaient. Au début de saison, on s'est dit, mais pareil, il n'y a pas d'expérience avant de
Falcao
littéralement
qui revenait de 2-3 saisons complètement blanches. Il y avait Mbappé, on ne le connaissait même pas.
Il arrive en fin de cycle. Hein, l'entraîneur Leonardo Jardim l'a même dit. Il a dit que cette année, ça allait être compliqué.
Mais une fois que les jeunes auront leur marque, ce sera bien.
Et le dernier club, c'est l'Olympique Lyonnais. Alors Lyon, ils sont dans une phase de poule un peu plus abordable. Quoique, avec Hoffenheim, le Shakhtar Donetsk, et eux, ils débutent dès mercredi soir à Manchester City.
Voilà.
Le gros poisson d'entrée.
On parlait de match bonus la semaine dernière entre Toulouse et Montpellier pour le hand. Pour moi, là, c'est le match bonus. S'ils prennent une gifle, personne n'en voudra. Ouais. Et puis derrière, ils auront 5 matchs pour peut-être se reprendre. Et puis si jamais ils arrivent à faire la surprise, tant mieux pour eux.
Pour ne pas prendre de gifle, il faudra qu'ils jouent quand même mieux que contre Caen. On a vu que contre Caen, ils ont joué à 11 contre 9 la plupart de la partie. Là, même au niveau de l'état d'esprit, il faut vraiment changer quelque chose à Lyon. Ils ont fait un bon recrutement avec Moussa Dembélé. Ils n'ont pas perdu de gros joueurs. Mais voilà, il faut voir qu'est-ce que ça donne au
sur
niveau,
le papier. Ils ont un super effectif.
Ils ont un super effectif. À chaque ligne, c'est complet. Il faut voir ce que ça donne.
On va rentrer dans le débat très rapidement. Messieurs, est-ce que Bruno Genesio est l'homme de la situation pour l'Olympique Lyonnais? On vient de le dire. Il y a un effectif correct à Lyon. Et derrière, on a l'impression qu'il n'a pas vraiment de crédit, surtout avec les supporters.
Ouais, mais si on prend en compte effectivement ce qui s'est passé ces dernières semaines dans l'extra sportif.
Qui est inadmissible.
Je pense que déjà, à titre personnel, on ne ressort pas indemne de ce qui est arrivé. Donc maintenant, j'espère que Genesio, lui, va être solide pour faire la part entre le professionnel et le personnel.
Il a un problème, Bruno Genesio, c'est qu'il a été installé par ses propres joueurs. Il était adjoint à l'époque où ça s'est mal terminé avec son prédécesseur. Il a été installé par ses joueurs.
Qui sont quasiment tous partis.
C'était des joueurs qui étaient formés là, qui connaissaient bien. Exactement. Et là, ils ne sont plus là. Et la question se pose vraiment parce qu'il n'avait pas beaucoup de légitimité à la base, si ce n'est la confiance de ces quelques joueurs-là.
On se retrouve, messieurs, merci. On se retrouve dans moins de 4 minutes avec l'invité David, recruteur d'un club de Ligue 1. Tout de suite.
Nos chaussures au placard et on prend la guitare, un CD de Marley. On laisse les enfants aux parents, on prendra tout notre temps. Je te garde pour moi, de Paris ou d'ailleurs, si tu me suis. Un peu la porte, oublier un peu les autres, la voiture et la ville. On pourrait couper la télé, nos deux portables et s'en aller, toi et moi pour une fois. De Paris ou d'ailleurs, si tu me suis. C'est peut-être pas mal aussi.
destination.
Aïe. C'était Yannick Noah sur Radio Présence. Ah, il marche pas. Bon.
Portez-vous bien, Jean Sureda.
Il est là, le jingle. Notre invité est l'une des pièces maîtresses du football professionnel aujourd'hui, un élément indispensable pour les clubs aujourd'hui. Les recruteurs passent leur temps au bord des terrains de football pour trouver le nouveau Pogba ou Mbappé. Par souci de discrétion, nous ne dévoilerons pas le nom ni le club pour lequel travaille notre invité. Nous l'appellerons David et on peut vous dire qu'il travaille pour un club de Ligue 1. David, bonsoir.
Bonsoir à vous.
Merci d'être avec nous en direct sur Radio Présence, tout simplement pour présenter qu'est-ce que le métier de recruteur dans le football.
Bah, je vais dire qu'aujourd'hui, c'est un métier, bien entendu, très important pour les clubs de niveau professionnel, parce qu'aujourd'hui, on sait que l'avenir des clubs dépend aussi des ventes de joueurs, et donc il faut être très pointu sur le recrutement. Pour pouvoir construire une équipe compétitive aussi, mais aussi avec des garçons avec une vraie valeur marchande.
Comment, tout simplement, on devient recruteur ? Il y a des études, c'est juste un savoir, une observation ?
Des contacts ?
Il faut un bon réseau. Après, bien entendu qu'il faut avoir un œil, parce que c'est important de pouvoir déceler les qualités et défauts d'un joueur. Essayer de se projeter, notamment sur les plus jeunes joueurs, sur se projeter dans les 2-3 années à venir pour se dire éventuellement, ce joueur-là, il a la possibilité d'atteindre ce niveau-là. Mais après, oui, il faut quand même avoir un œil et des études, ça ne donne pas l'œil.
Lucas Cerdic.
Oui, avoir été formateur avant, avoir été dirigeant dans un club avec des jeunes, justement, des jeunes qui jouent le Poussin, Benjamin, c'est indispensable ?
Non, parce que aujourd'hui le métier du recrutement, il peut se décomposer de plusieurs façons. Il y a des recruteurs qui sont spécialistes sur les jeunes, qui travaillent essentiellement sur les jeunes. D'autres, qui est mon cas, travaillent essentiellement sur les pros. Et puis d'autres qui font les deux. Moi, je trouve que faire les deux, c'est compliqué de passer d'un match, par exemple, de U15 ou de U16 à un match de Ligue 1. Il faut avoir la capacité très vite de switcher parce que c'est pas du tout le même métier. Donc, je pense que voilà, les clubs devraient être en mesure d'avoir des spécialistes recrutement jeunes et des spécialistes recrutement pro.
Timothée Rouvière.
Quelles sont les principales qualités pour devenir un recruteur ?
Les qualités, il faut être en mesure de pouvoir absorber beaucoup de matchs en live, notamment le week-end, beaucoup de matchs en vidéo parce que c'est pas du tout pareil. Donc, forcément, il y a ce côté-là, et puis il faut être capable de se projeter sur un joueur vu par rapport à l'équipe dans laquelle on travaille, par rapport le club dans lequel on travaille, parce que c'est important de se dire tel joueur dans notre club, est-ce qu'il est en mesure mentalement, parce qu'on a un public très chaud, parce que de se projeter sur tous ces points-là, c'est important.
Combien de matchs vous pouvez regarder en un week-end ? Ça représente combien ?
En live, sur un week-end, on est capable de regarder entre 4 et 5 matchs, plus les matchs en vidéo, les matchs qui sont retransmis à la télé. En semaine, je suis en mesure de regarder au minimum 6 matchs jusqu'à 9 matchs.
Il y a une grosse différence, entre les matchs à la télé et les matchs au stade. On voit pas la même chose ?
Ouais, c'est vrai que c'est pas pareil. Moi, je, par exemple, ce qui est mon cas, je préfère vraiment voir le match en live que le voir en vidéo ou à la télé, parce que déjà, quand on est dans le stade, on est pris dans l'ambiance, on s'imprègne vraiment totalement du match. Quand on regarde un match à la télé ou en vidéo, on se projette un petit peu moins, donc c'est pas forcément pareil.
En plus, dans le stade, on peut se concentrer vraiment uniquement sur le joueur, ce que la caméra fait pas toujours.
Voilà, tout à fait. Tout à fait.
Marie Keta.
Ouais, vous êtes en train de parler de la façon dont vous recrutez, la manière dont ça se déroule. Moi, j'ai une question. Est-ce que il y a une part d'instinct dans les choix que vous faites quand vous regardez un joueur ?
Alors, c'est vrai qu'il faut, on minimise les risques. Après, comme je le dis, le risque zéro n'existe pas, parce qu'un joueur, on le voit souvent, être très performant dans un club et arriver dans un autre club pour différentes raisons, malheureusement, de ne pas arriver à trouver son réel niveau. Maintenant, c'est vrai que l'instinct, il faut en avoir un petit peu, mais je dirais plus, c'est pas de l'instinct, c'est du feeling.
Combien de matchs vous regardez avant de prendre une décision pour dire ce joueur, il est apte ou non à rejoindre notre club ?
Dans notre cas et dans notre club, on essaye de, au maximum de visualiser un joueur entre 7 et 10 fois dans la saison. Et notamment sur des matchs, excusez-moi, vous avez recoupé, notamment sur des matchs à l'extérieur, à domicile, voilà, sur différents championnats ou matchs de coupe, parce que des fois, au niveau mental, c'est différent.
Lucas Serti.
Oui, une fois que vous avez repéré un joueur, que vous avez décidé qu'il était bon pour votre club, quelle est la partie la plus difficile après ? C'est convaincre l'entourage, convaincre le joueur ? C'est quoi l'aspect le plus compliqué pour vous ?
Bah après, c'est vrai qu'il y a la négociation qui rentre en ligne de compte. Donc, bien entendu, si le joueur est toujours sous contrat, il y a une négociation avec le club au niveau transfert. Il y a aussi l'aspect économique au niveau du salaire, parce que voilà, aujourd'hui on voit aussi que le marché il explose quand même en termes de prix de transfert. Donc après ça dépend aussi des moyens du club dans lequel on travaille, mais c'est vrai que tout ça c'est des éléments je vais dire très importants et quasiment fondamentaux sur la fin pour finaliser un dossier, bien sûr.
Marie-Quette,
ouais, j'aimerais rajouter comment on fait pour lutter contre la concurrence avec les autres clubs, ouais. En Angleterre, à l'extérieur ou même en France.
Parce qu'en général, quand il y a un recruteur dans une tribune, ça se sait assez vite et assez facilement.
Ouais, bah c'est vrai que on peut pas non plus empêcher les autres de venir au stade. Donc il faut essayer d'avoir un coup d'avance. Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué. Aujourd'hui, les clubs ont pris la mesure que les cellules de recrutement sont très importantes, même si je pense que ça devrait être encore plus important. Donc il faut essayer d'être plus rapide et de cibler un joueur le plus rapidement possible pour éviter qu'après les écuries anglaises se mettent dessus et qu'à partir de là les prix explosent et qu'on soit plus en mesure de pouvoir le faire.
C'est les Anglais les plus féroces là-dedans, les plus gros concurrents.
Oui, les Anglais ils payent bien entendu les joueurs chers, ils ont des enveloppes financières beaucoup plus importantes que le football français. Donc forcément pour nous c'est plus difficile. Je prends l'exemple de Matteo Guendouzi qui est parti à Arsenal pour 8 millions. Je pense qu'aujourd'hui...
Joueur de Lorient, français, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, un club français...
ne peut pas mettre 8 millions.
N'aurait pas pu.
Un joueur pas beaucoup de...
Voilà, tout à fait.
Ouais, et justement, est-ce que finalement, en France, on n'est pas assez observateur de ce qui se fait en Ligue 2 aussi ? Parce qu'on a de super joueurs.
Pour notre part, Pour faire tous les terrains les vendredis, je peux vous dire que la Ligue 1 est très présente sur le championnat de Ligue 2.
De plus en plus, non ?
De plus en plus. Bien entendu, la Ligue 2 est un vivier très très important, donc il faut être en mesure de le couvrir et d'être très réactif. Voilà, c'est surtout là le vrai travail, c'est de couvrir, mais aussi d'avoir la réactivité pour avancer très rapidement sur un dossier.
La Ligue 2 est encore plus observée avec la montée des prix, surtout en Angleterre, comme on vient de dire.
Oui, c'est vrai que la Ligue 2, elle est très observée parce que les clubs étrangers savent que la Ligue 2 française est d'un très très bon niveau et que souvent il y a des joueurs qui sortent de ce championnat. Qui sont capables d'atteindre des très très bons niveaux. Donc la Ligue 2 est très observée, le championnat national aussi. Donc aujourd'hui, comme je vous dis, c'est surtout la réactivité et le pouvoir attractif du club qui fera la différence.
Pour un club de Ligue 1, le minimum c'est National 1, c'est la 3e division, ou on peut aller encore en dessous l'ancienne CFA qui est maintenant National 2 ou National 3? C'est vraiment le seuil, c'est le National 1, c'est le seuil pour un club de Ligue 1.
C'est de là que vient le côté.
Non, pas forcément. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des très bons joueurs partout. Après, il faut être capable, aujourd'hui, un garçon qui évolue en National 2, de se projeter et de se dire, tiens, celui-là, il est capable de faire la bascule dans un groupe de Ligue 1. C'est quand même très rare. Malgré tout, par conscience professionnelle, il faut être capable d'avoir le réseau et d'avoir des infos sur éventuellement, entre guillemets, une pépite qui évolue dans ce niveau-là. Et derrière, d'être réactif pour aller le voir rapidement et de se dire, tiens, celui-là, oui, il peut venir compléter notre groupe et ça peut être une bonne surprise.
Et à l'étranger, quel type de championnat, jusqu'à quel pays exotique, entre guillemets, on peut aller regarder? On a vu des joueurs arriver en France qui venaient de Serbie, notamment à Marseille, d'autres qui venaient de championnats, en tout cas, peut-être moins observés qu'avant. Jusqu'où vous allez?
On essaye d'aller un petit peu partout. Après, comme je vous dis, il faut savoir dans le club dans lequel on travaille, est-ce qu'on est en mesure de payer des transferts à plus de 10 millions? Est-ce qu'on est en mesure de payer des transferts entre 0 et 5 millions? Tout ça, forcément, ça nous dirige vers les pays à observer. Le championnat belge était aussi un championnat très intéressant, mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les Belges vendent cher leurs joueurs. Donc,
la guerre des prix vous oblige quand même à élargir largement le champ de recherche, non?
Bien entendu, on est obligé d'élargir un petit peu nos champs d'action et de se rendre sur des championnats comme la Serbie, comme la Serie B en Italie, d'être un petit peu plus judicieux et malin. Voilà.
Dans le club de Ligue 1 où vous êtes 4 recruteurs, c'est bien ça. Les 4 sont en France ou vraiment vous partez à l'étranger aussi?
Non, bien sûr, on est 4 et il y a des scouts qui bougent sur l'étranger les week-ends, d'autres qui travaillent un petit peu plus sur la France. On se répartit un petit peu le travail en sachant qu'on essaye aussi de croiser les infos, c'est-à-dire qu'un scout qui a vu un joueur dans un pays, à partir du moment où il dit celui-là il est intéressant, on essaye au niveau de notre cellule d'y aller tous pour comparer les avis et qu'à un moment donné, l'unité de la cellule soit costaud pour pouvoir imposer un joueur.
Lucas,
je me demandais, les agents aussi font bien leur travail, a priori vous devez recevoir un paquet de vidéos par semaine, ou des choses comme ça, de gens qui essayent aussi de vous inciter à recruter tel ou tel joueur, ça représente un gros volume ou on se fait des idées là-dessus?
Non, ça représente. C'est vrai que les agents, forcément, quand ils ont un joueur, ils vous l'envoient et après, vous travaillez avec une plateforme pour prendre la température sur le joueur. Malgré tout, je vais dire que sur la Ligue 1, pas mal d'agents nous envoient des joueurs, donc il faut dégrossir le travail très rapidement pour aller à l'essentiel.
Mais ça peut vous arriver de tomber sur des pépites grâce à ça ou pas?
Pour l'instant, ça n'a pas forcément été le cas. Mais ça peut arriver.
On n'en a toujours pas parlé. Quel est le lien que vous avez avec votre club? Quelles sont les directives que vous donnez? Vous êtes assez libre dessus ou il y a des directives précises sur les joueurs à aller chercher? Et si oui, c'est en fonction de la demande du staff, du budget aussi, de l'entraîneur?
Oui, bien entendu. Après, le travail est différent, par exemple, là, sur la saison après le mercato qui vient de se passer, puisque là, on est sur visualisation, on va dire, globale des championnats et des équipes. Et puis derrière, une fois qu'on a quasiment vu toutes les équipes en live, on va dégager des profils et des joueurs intéressants sur lesquels on se projette sur notamment la saison d'après en se disant, ce poste-là, on va chercher à ce poste-là. Et du coup, on va établir une liste de joueurs avec des exigences du numéro 1 au numéro 5, avec un aspect financier qui sera aussi à prendre en compte et important, bien sûr.
Pour terminer, David, est-ce que malgré le fait que ce soit votre métier, on prend du plaisir à regarder un match de foot où il y a vraiment le côté professionnel qui nous oblige à avoir un regard critique et on est concentré, on ne prend pas de plaisir?
Non, moi je pars du principe que déjà quand on fait ce métier, c'est un réel plaisir parce que aujourd'hui, pour ma part, le football c'est une grande partie de ma vie, donc forcément que quand on fait ce métier et qu'on va avoir des matchs, on doit prendre du plaisir. Après, bien entendu que le travail, une fois que le match commence, c'est le travail et qu'il faut se concentrer pour essayer de rien louper et d'être très pointu et pouvoir amener le maximum d'informations sur le joueur. Mais c'est un réel plaisir, bien sûr.
Et David, merci d'avoir été avec nous ce soir sur Radio Présence.
Merci à vous, bonne soirée, au plaisir.
Bonne soirée et on se retrouve tout de suite pour le deuxième débat de la soirée.
Sportez-vous bien. Le débat.
Et pour la deuxième finale de suite de la Coupe Davis, les Bleus de Yannick Noah espèrent conserver leur trophée en devenant ainsi le dernier vainqueur de la Coupe Davis version classique. Messieurs, comme tout à l'heure, la question est simple et on ne répond que par oui ou par non. la France est-elle favorite en finale face à la Croatie? Ça nous rappelle de bons souvenirs. Damien?
Non.
Lucas?
Oui.
Marek?
Je n'en sais rien.
Et Timothée?
Non.
Damien, la France, tenante du titre, elle est logiquement favorite face à la Croatie?
Comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, elle n'est pas favorite, mais tout est possible. Ça dépendra surtout de la journée du samedi avec le double, où on peut prendre le point. Et ensuite, ça dépendra aussi de l'équipe qu'on aura en face. Marin Cilic, bien évidemment, est au-dessus de nos Français actuellement.
Et Borna Koric.
Et Borna Koric, qui est le
deuxième, entre guillemets.
Une étoile montante.
Voilà, un petit jeune. Qui peut, ça sera lui surtout la clé du week-end, je pense.
Lucas?
Oui, non, moi je pense que la France est en mesure de conserver son titre, tout simplement parce que la vérité d'aujourd'hui n'est pas du tout celle du mois de décembre. On a des joueurs qui peuvent revenir en forme et on a surtout, pour moi, un peu comme l'équipe de France de football, une sorte de magicien à sa tête, Yannick Noah, à l'instar de Didier Deschamps, qui a connu beaucoup de réussite, qui est une figure vraiment emblématique de ce sport dans notre pays et qui est capable de fédérer des joueurs autour d'un seul objectif. Pour moi, le bon exemple, c'est la paire de doubles qu'il a installée et qui est en général décisif pour notre équipe de France. Et Benoît Paire, le dernier week-end, il a tenté le pari, il a été brillant. On a quasiment jamais vu Benoît Paire, enfin moi en tout cas, aussi impliqué dans un match de tennis que là, quoi.
Timothée Rouvière, vous avez dit que la France n'est pas favorite face à la Croatie.
Non, clairement, pour moi, la France n'est pas favorite. On sait que l'année dernière, la France a battu la Belgique 3-2. On sait qu'en Belgique, il y avait David Goffin qui était largement au-dessus. Là, on a Marit Cilic qui est au-dessus, ça c'est sûr. Mais en double, ils ont un très bon joueur qui s'appelle Ivan Dodic. Et il y a surtout le petit Borna Korir qui peut alors s'écrouler à n'importe quel moment parce que voilà, c'est un jeune et il n'a pas assez d'expérience, mais qui peut aussi sortir des numéros.
Il n'est pas passé loin d'être la cause de l'élimination de son équipe ce week-end face à Francis Tiafoe, alors que sur le papier, Borna Korir était quand même un petit peu au-dessus. Pour moi, le scénario, justement, t'en parles très bien. Ils ont gagné contre la Belgique l'année dernière avec un David Goffin qui était extraterrestre, quoi. Je veux dire. Mais on a derrière deux simples que les Français peuvent tout à fait gagner. Et on a quasiment la meilleure paire de doubles du monde, même si Ivan Dodic, c'est un très bon joueur. Le 3-2 est largement visable.
Pourtant, Borna Koric a rapporté 2 points aux Croates ce week-end. Victoire face aux États-Unis 3-2. Damien, c'est comme a dit tout à l'heure Lucas, c'est l'étoile montante du tennis croate, mais c'est vraiment un élément important de cette sélection.
Ça va être la clé. Du coup, Borna Koric, c'est pas le même calibre que les deuxièmes joueurs qui ont été alignés pour la Belgique l'année dernière. Donc c'est pour ça que ça va être beaucoup plus compliqué que contre la Belgique l'année dernière. Donc.
Plus compliqué, c'est vrai. Je suis d'accord, mais pour moi ça peut passer.
Non, pour moi, arrêtez-moi si je me trompe, mais ça dépend beaucoup de savoir si la Croatie va être au complet aussi, parce qu'on a parlé, on parle de la chatte à Dédé pour le foot, mais il y a aussi Yannick Loa le sorcier qui, en fait, peut-être que Marin Cilic, 6e mondial, il est incertain puisque les Masters vont se dérouler avant la finale. Alors, c'est quand même un paramètre qu'on ne peut pas négliger.
Mais évidemment, Marin Cilic, il aura peut-être autre chose à faire ou autre chose en tête. Il sortira peut-être d'un gros master. Et effectivement, c'est quelque chose dont on ne peut pas dire que ça ne va pas influer, d'autant que les Français n'auront que ça à jouer en cette fin de saison.
Il faut surtout voir aussi côté français qui y aura. On ne sait pas si Joël Fredsonga sera revenu de blessure.
Gaël
Monfils, pareil.
C'est un cadeau, ça.
Richard Gasquet.
Mais là, pas de Gaël Monfils, pas de Songa, pas de Gasquet, pas de Simon.
Voilà, on est face à des jeunes. On est face à Benoît Paire qui est imprévisible.
Et on est en finale. Voilà,
ah
donc
oui, c'est très
on a
bien.
Un vivier, on a quelque chose.
Alors
quoi.
C'est sûr qu'on a un vivier, mais après il faut voir si des garçons comme Lucas Pouille et Benoît Paire, qui sont classés aux alentours de la 20e, 30e place mondiale, peuvent battre des garçons comme Marin Cilic et surtout Borna Korir qui va être la clé.
Avoir battu 7 Espagnols, je dis bien 7 Espagnols, est-ce que c'est une vraie performance de la part de l'équipe de France ou pas, Damien?
Non. Non, c'est
un bon
résultat, mais non, pas logique, mais je pense que ça débute très bien le premier match. Ça se joue sur un set. Benoît Paire a sorti un bon set. Pour une fois, il ne s'est pas écroulé. Et je pense que ça lui a fait du bien de jouer en Coupe Davis. Parce que ce match-là, je pense qu'il ne l'aurait pas gagné sur un tournoi autre que la Coupe Davis. Et je pense que Benoît Paire a bien lancé l'équipe de France. Et après, Lucas Pouille a
confirmé
une grosse bataille contre...
On y revient, c'est une question
Bautista.
Bautista Agut, c'est une question de choix de coach aussi. C'est une question de préparation. C'est une question de feeling. Peut-être qu'on n'aurait pas eu un seul autre coach qui aurait mis Benoît Paire d'entrée comme ça contre Carreno Busta.
C'est le culot à la Yannick Noah.
sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui marche. Et c'est pas par hasard si c'est le meilleur tennisman de notre ère encore, hein, enfin même de celle qui nous a précédé, quoi.
Et ça fait plaisir surtout de voir Benoît Paire porter le maillot de l'équipe de France, aimer jouer au tennis, parce qu'on sait que ça a été compliqué auparavant, notamment aux Jeux Olympiques.
Ouais. D'ailleurs, la Croatie est la dernière équipe à nous avoir battu en Coupe Davis. C'était il y a tout juste 2 ans, c'était le 18 septembre 2016, défaite 3-2. D'ailleurs, cette année-là, la Croatie avait perdu en finale contre l'Argentine. Quel est le vrai niveau finalement du tennis français? On en a parlé il y a 2 semaines. En tournoi majeur, c'est très faible, mais pourtant, la Coupe Davis, là, depuis 2 ans, c'est monstrueux. Alors, on va peut-être nous dire qu'on n'a pas joué contre les meilleurs têtes de série.
On sort jamais de gros résultats en Grand Chelem, mais on a une culture tennis, on a un vivier. On a avec l'Espagne le plus grand nombre de joueurs français dans le top 100. Pendant un temps, dans le top 50, c'était nous les mieux représentés. Donc, on a un vivier, on a quelque chose, on a une culture Coupe Davis aussi, ça faut pas l'oublier. On adore ça, alors que voilà, au niveau individuel, peut-être on est moins capable de se transcender, mais dès qu'il s'agit du collectif, c'est quand même quelque chose qui est très prégnant chez nous.
Que vaut la Croatie, pour finir là-dessus? Que vaut la Croatie concrètement sur ce week-end?
C'est le même profil, hein.
C'est la même chose.
Ouais, c'est un pays qui adore jouer aussi collectif avec un très grand joueur. Donc ça me fait penser plutôt à la Serbie de l'époque Djokovic.
Ça, tout dépendra de la surface que la France choisira aussi.
Normalement, oui. C'est à Lille, c'est sur dur. Est-ce qu'il faut prendre terre battue?
Silic en intérieur, en dur, attention quoi.
Exactement.
Messieurs, c'est déjà terminé pour ce soir. Merci à vous, merci à Coraline à la réalisation. Retrouvez dès 7h Rémi Souloumiac, Isabelle Honneil et Corinne Saint-Félix. À 9h, Vivante Église avec Emmanuel Pella. À lundi, avec comme invité Nolan Bediaf, champion du monde de roller sur le 20 km et le marathon. Bonne semaine avec Radio Présence.
Écoutez Présence, c'est votre radio. Soutenez Radio Présence, qu'elle devienne aussi la radio de beaucoup d'autres.